Salut et bienvenue dans l'épisode 21 de la saison 6 d'ICI Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Autour de la table ce lundi, Christophe Buron, Didier Croix et Fred Vernat. Messieurs, bonjour.
Salut Manu, salut à tous.
Bonjour Manu, bonjour à tous.
Bonjour à toutes et tous et bonjour Manu.
Alors au menu de cette émission, cette question, les deux matchs de Challenge Cup remportés face aux Cheetahs et à l'Ulster ce samedi ont-ils relancé la machine ASM? On y répondra dans quelques secondes. Nous évoquerons également le déplacement des Clermontois à Bordeaux, ce sera ce dimanche pour la reprise du top 14 et nous terminerons avec les traditionnels top et flop. Mais revenons tout d'abord au thème principal de cette émission et cette question, la parenthèse Challenge Cup a-t-elle relancé la machine ASM? Messieurs, petit tour de table, on va commencer avec toi Fred.
Moi je fais un petit détour par l'ambassade de Normandie, donc je vais pas me mouiller, je vais dire oui et non.
Didier... J'aurais tendance à dire oui.
Et Christophe?
À confirmer. Alors va-t-elle relancer la machine? On l'espère, mais c'est à voir. Mais en tout cas, ça a fait du bien à tout le monde.
Alors cette large victoire, hein, succès 53-14 face à l'Ulster ce samedi, donc qui permet à l'ASM de se hisser dans le dernier carré de la Challenge Cup. Messieurs, ça fait quand même très longtemps qu'on n'avait pas vu une prestation aussi aboutie de la part des Clermontois.
Oui, à tout point de vue, puisqu'on peut relever, c'est la bonne température, c'est peut-être voir la réaction du public, la réaction des gens, des observateurs aussi, la réaction du coach. Sur tout ça, tout le monde était satisfait, tout le monde a pris du plaisir à regarder ce match. On a vu à peu près tous les ingrédients qu'on ne voit pas suffisamment qu'on n'a pas vu suffisamment depuis le début de saison, hein, de l'engagement, de la détermination, du jeu, du spectacle. Ça fait beaucoup sur un seul match, on n'était plus habitué.
Sur 80 minutes.
Et avec une fin de match tranquille, voilà, qui préserve la santé des gens qui sont un peu cardiaque, parce que cette saison on peut pas dire que cette équipe soit très sereine sur 80 minutes, donc c'est aussi à souligner.
Mais ça c'était voulu en plus, enfin au niveau de la composition d'équipe.
C'est un coaching qui avait
le staff l'avait clairement annoncé avant,
qui avait programmé un coaching un peu particulier pour assurer la fin de match. Mais bon, à l'heure de jeu, cette équipe irlandaise a explosé un peu à l'image d'ailleurs. Ça m'a fait penser à hier, ce dimanche, à la victoire de Toulouse contre Exeter. Exeter était quasiment à taille-taille en début de seconde période. Mais bon, visiblement, ça venait du nord de la France et la chaleur les a un peu accablés.
Oui, justement, enfin, tu le dis en plaisantant, mais est-ce que les conditions climatiques qu'il y a eu ce week-end sur l'Hexagone, est-ce que ça a pu jouer? Est-ce que ça a pu
jouer? Parce que
quand on a vu l'Ulster, effectivement, à partir de l'heure de jeu.
Ça a joué sur les organismes, évidemment. Et puis d'ailleurs, ça a été la première chose qu'a mis en exergue Urios. Après le match, c'est qu'il était satisfait de la nomination physique et du physique de son équipe. C'est à ce niveau-là que les Clermontois ont vraiment posé la main sur le match et pendant 80 minutes.
Enfin, c'était la première grosse chaleur pour tout le monde. Hein,
la semaine dernière, saison, c'était pas mal aussi contre les Cheetahs.
Un petit peu, je ne sais pas si c'est un argument en tout cas, qui pèse en faveur d'une équipe plus que d'une autre.
Là, ça a favorisé en tout cas le rythme dans la rencontre,
hein,
où il y a eu beaucoup de rythme, d'intensité, favorisé par un arbitre aussi qui a laissé beaucoup jouer, qui a laissé passer peut-être quelques fautes, mais qui a privilégié le jeu peut-être parfois à la règle, et du coup ça a donné vraiment un match avec de haute intensité et en face, avec aussi une équipe en face qui était pendant une heure pas facile, hein, et qui a donné beaucoup de fil à retordre à ces Clermontois. Ces Irlandais ont vraiment, enfin du coup la victoire de Clermont est un peu rehaussée aussi par la qualité de l'opposition.
Oui, l'Ulster qui avait bien débuté avec un essai rapide, il y a eu un premier franchissement assez tôt dans le match.
Oui,
ils ont insisté sur ce jeu direct, mais après clairement a haussé le curseur à partir de la 20e minute défensivement, et on a rarement vu quand même cette saison, encore une fois, des plaquages offensifs. Enfin, ils ont fait mal, Christophe Furios le soulignait derrière, après le match, mais il y a eu un impact mis défensivement qui a fait mal aux Irlandais aussi.
Il y a un plaquage de Sowakula autour de la 20e minute, semble-t-il.
Il y en a eu plus d'un,
mais
avoir revu le match pour vous dire que Sowakula, il en a fait quelques-uns, il les a secoués. Nos amis irlandais,
ils ont eu mal, ouais.
Ils ont le cartable qui a tremblé quand même. Hein, mais c'est vrai que tu fais bien de signaler qu'ils se sont fait franchir sur la première action des Irlandais, mais après ils ont su verrouiller un peu plus le milieu de terrain. Et puis, comme a dit Urios, hein, les gars avaient le couteau entre les dents et ils n'ont rien lâché. Il y avait des joueurs qui avaient certainement des choses aussi à prouver dans ce domaine-là. On pense à Raka, par exemple, qui a défendu d'une façon qui n'est pas toujours sa marque de fabrique, on va dire.
Mais tu parlais des conditions climatiques, c'est peut-être pas un hasard non plus. En revanche, peut-être que les capacités des joueurs de l'effectif clermontois s'adaptent plus à ce genre de conditions. Je pense au cas inverse, c'était le match contre Oyonnax, vous vous souvenez, ces conditions déplorables. On a l'impression que peut-être que l'effectif de Clermont aujourd'hui, le jeu de Clermont se prête davantage à des conditions un peu où il y a du rythme, où il y a plus de jeu courant que quand il faut un peu ferrailler dans la gadoue.
À l'image de Sovacula qui est un coureur quoi, plus qu'un joueur qui va ferrailler dans le petit périmètre, qui va faire des petites avancées d'un ou mètre ou deux. C'est un mec c'est un joueur qui visiblement aime les espaces, aime faire des passes, aime recevoir le ballon, aime courir
aussi, hein. Il doit aimer plaquer aussi,
hein, il aime aussi plaquer, mais c'est un mec c'est un amateur de grand espace quoi, donc
je pense qu'il sait faire ferrailler, mais qu'effectivement il préfère courir et qu'il est comme tout bon fidjien, en tout cas d'origine, il aime avoir le ballon dans les mains.
Il a fait avancer l'équipe aussi. Il n'est pas le seul, hein, mais on peut parler de Pessé Ligato également. Ces joueurs, on parlait de Sovacula, le match de samedi prouve en tout cas sa montée en puissance. Je pense que tout le monde autour de la table est d'accord. C'est son meilleur match depuis son arrivée, de loin.
Pour rebondir sur la question, c'est la Challenge Cup a permis de lancer, voire de relancer un joueur comme ça, par exemple, qui était en dedans pendant très longtemps pour X raisons. Et qui, là, depuis deux matchs, commence à retrouver. On l'avait un peu au Racing, mais dans un contexte qui était différent. Et là, mais on voit un joueur qui est là vraiment capable d'apporter quelque chose à cette équipe. Un profil un peu différent en plus. Mais là, c'est vrai que la Challenge Cup a permis ça.
Faut pas oublier que c'était la principale victime de la gestion des joueurs GIF cette saison. Enfin, sur la première partie de saison, hein, c'est un joueur qui ne jouait pas à cause de ça. Hein.
Parce qu'on rappelle que le dispositif GIF ne s'applique pas sur la Challenge Cup aussi.
Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'il jouait uniquement les matchs de challenge en début de saison. Enfin, en décembre et janvier, il jouait que ces matchs-là. Il jouait jamais en top 14 parce qu'il y avait Fritzi, parce qu'il y avait Marcos Kremer et qu'il y avait des choix à faire et que c'était lui
le prestation collatérale. C'était pas.
Et quand il jouait,
il n'était pas terrible non plus. Quoi.
Il n'était pas dans le coup parce que Urios l'a rappelé samedi après le match, et que c'est un joueur qui est arrivé, qui avait beaucoup de matchs au compteur en 2023. Hein. Et qui était peut-être probablement un peu cramé, qui avait besoin de s'habituer, de prendre des repères à 25 000 km de chez lui, je ne sais pas combien. Donc il fallait vraiment qu'il s'habitue à un nouvel environnement, et ça a mis un peu de temps. Et visiblement, là, tout de suite, ça paye.
Alors messieurs, est-ce que cette prestation de samedi peut relancer l'ASM, parce que ça peut changer la donne dans le top 14 donc, qui arrive très vite, reprise ce dimanche. On sait que la situation de l'ASM en top 14 n'est pas flamboyante. Le club auvergnat compte 4 points d'avance seulement sur le barragiste. Il y a ce déplacement à Bordeaux qui se profile. Est-ce que ça offre une base de travail plus qu'intéressante, en tout cas à Christophe Urios et à son staff?
Si on fait abstraction de la pression des compétitions, enfin des deux compétitions, et notamment celle du top 14, clairement, l'ASM s'est remise dans une dynamique. Maintenant, j'ai envie de dire, faut voir ce que ça va donner dimanche à Bordeaux en termes de. Alors, peut-être pas de résultats, parce que aller gagner à Bordeaux, ça va pas être simple, mais en termes de prestations. Si c'est la prestation de La Rochelle il y a un mois, ça voudrait dire que la dynamique, elle fait plouf.
Il y a un exemple qui illustre un peu ce que dit Christophe, hein, cette dynamique de la victoire, c'est le précédent bloc de challenge. Quand il y avait eu la double victoire contre Klanekli et en Géorgie, ça avait été suivi directement du succès à Castres, qui est peut-être le match référence à l'extérieur de la saison, en tout cas un des meilleurs. La victoire à Castres et la victoire confirmée à domicile contre Lyon dans la foulée. Donc on peut imaginer que c'est positif quand même de réaliser ce que viennent de faire les Clermontois. Pour autant, voilà, là le déplacement il n'est pas à Castres, il est à Bordeaux, donc il va sortir aussi d'une déception, d'une grosse désillusion européenne. C'est pas le déplacement le plus simple de la saison.
Et alors, il faut du répit il l'a dit lui-même, hein, à Christophe Urios et à ses à l'encadrement, hein, qui était forcément sous pression, parce que quand ça gagne pas, parce qu'il faut jamais oublier, hein, top 14, c'est que 8 victoires en 20 journées, hein, donc tout le monde était sous pression. Et donc cette parenthèse leur offre un peu de répit par rapport à ça.
Mais si l'ASM reproduit ce genre de prestations en top 14, alors après, bien sûr, c'est facile à dire, hein, mais c'est vrai que l'ASM peut revenir, entre guillemets, dans le... enfin, s'éloigner déjà de la zone de relégation. Mais en tout cas, Christophe Furios, enfin, les joueurs montrent à Christophe Furios qu'ils étaient capables de produire ce type de prestations. Maintenant, c'est à confirmer. Didier, ce que les Clermontois ont parlé tout à l'heure, Fred rebondissait là-dessus, sur cette fameuse dynamique de janvier qui avait suivi la dernière phase de dernière parenthèse, phase de poule de la Challenge Cup. Il y avait eu une confirmation en championnat, mais qui n'avait pas duré derrière. Est-ce que cette période, justement, de début d'année, peut servir aux Clermontois là, pour cette nouvelle...
Ils vont s'en inspirer, enfin, ils vont se la rappeler, en tout cas. Après, bon, il y a des éléments qui vont intervenir. Hein, la profondeur de l'effectif, là, ils vont rentrer des joueurs importants, donc ça va densifier l'effectif. Mais est-ce que dans les semaines, les jours qui vont venir, il n'y aura pas des blessés qui vont venir perturber le truc? Ça, c'est un élément qui encore dont on n'a pas toutes les données. Mais bon, en tout état de cause, c'est vrai que ce déplacement à Bordeaux finalement arrive à point nommé, parce que ça peut aussi redonner un coup de booster pour la fin de saison en top 14 également. Ce qui était loin d'être le cas, loin d'être évident, il y a encore 15 jours de ça, quoi.
Il y a l'aspect psychologique. Est-ce que le fait d'avoir cette demi-finale, donc, qui arrivera, ce sera le samedi 4 mai, est-ce que ça peut fixer un objectif aussi pour les Clermontois, d'avoir ces matchs de phase finale, une demi-finale, on n'en joue pas tous les ans. Donc est-ce que le staff peut s'en servir aussi pour préparer le top 14 derrière?
Ah bah complètement, ouais, elle est insérée là, entre deux blocs de top 14 qui vont être plus que décisifs pour l'ASM. Hein. Parce qu'après la demi-finale, il y a Perpignan, je crois, et la réception de Castres. Et juste avant une éventuelle finale de challenge. Mais c'est clair qu'un groupe se nourrit de ce genre de match, hein, éliminatoire. Alors évidemment, quand il y a la victoire au bout, en plus, ça ne peut que donner des ailes et ça peut qu'apporter un supplément de force et de confiance.
Fred, au départ, tu disais, tu étais un peu normand dans la réponse à ce podcast. Sur les éléments peut-être un peu plus négatifs pour toi, qu'est-ce que tu mettrais en avant?
Bah, on va pas changer l'effectif de l'ASM, hein, ni ses qualités, ni ses défauts. Donc je m'attends pas, honnêtement, je serais surpris, agréablement surpris, si on avait une série de victoires de l'ASM jusqu'à la fin de saison régulière du top 14. Mais très honnêtement, moi, je crois à un petit effet, c'est sûr. La dynamique de la victoire entraîne quelque chose de positif. Pour autant, comme je le disais, ce déplacement à Bordeaux, il est compliqué à gérer. Je me demande aussi si c'est une belle perspective quand même de gagner cette petite Coupe d'Europe. Peut-être que ça va interférer aussi à un moment dans le top 14, hein, dans la gestion de l'effectif, dans l'occupation de l'esprit aussi. Donc tout ça me fait dire que on n'est pas sorti, comme disait quelqu'un, on n'a pas le cul sorti des ronces au top 14. Tu l'as dit en introduction, 4 points d'avance seulement. Sur le barragiste, hein, c'est rien du tout. En revanche, on voit qu'il y a un calendrier qui est compliqué pour tout le monde. Certainement que dans les deux prochaines journées, on aura une vision peut-être un peu plus claire de ce qui va se passer sur cette fin de saison et de ce que pourrait espérer ou non l'ASM.
Avant de basculer sur le match de Bordeaux, de revenir sur le match de Bordeaux, donc l'ASM qui affrontera les Sharks de Durban, ce sera en demi-finale, ce sera du côté du Stoop de Twickenham le samedi 4 mai à 13h30, du côté de Londres, puisqu'on rappelle le règlement, les Sharks, donc, qui ont fini avec le meilleur bilan de la phase régulière de Challenge Cup, avaient l'avantage du terrain jusqu'au quart de finale, mais à partir des demi, les clubs sud-africains ne pouvaient pas recevoir en Afrique du Sud, donc se déplacent en Europe, et c'est pour ça donc, que cette rencontre aura lieu à Londres. Une équipe des Sharks donc performante en Challenge Cup, en revanche en championnat, ouais. Donc ils participent à l'URC, l'United Rugby Championship, 15e sur 16.
Oui, déjà par rapport au terrain, donc on peut dire que c'est quasiment un match sur terrain neutre, hein, parce que on serait étonné qu'il y ait des charters de supporters sud-africains débarquent à Twickenham dans 3 semaines. Mais enfin bon. Quant à cette équipe, oui, c'est des parcours très bizarres, mais bon, c'est parce qu'il y a des choix de fait. Hein. Visiblement, ils ont fait. Ils font l'impasse sur le championnat, l'ancienne Ligue Celt mélangée avec ses franchises sud-africaines. Pas l'air de trop les intéresser. J'ai été voir des compos d'équipe, c'est pas tout à fait les mêmes que celles qui sont alignées en challenge européen. Donc c'est un peu bizarre, ouais. Une victoire en 11 journées, je crois. Donc, parce que sur le papier, cette équipe des Sharks, c'est celle qui a gagné contre Édimbourg ce week-end.
Devant, c'est pas rigolo.
Ah, c'est pas, ça fait pas rire. Hein. C'est, oui, c'est une
avec
première...
une ossature de l'équipe
tout à fait,
du Sud.
Box, donc, ouais, c'est étonnant, quoi, ces deux visages.
On suivra ça en tout cas, ce sera le samedi 4 mai à 13h30, on aura l'occasion d'en reparler. Donc l'ASM qui retrouve le top 14, donc ce sera ce dimanche à 21h05 du côté de Chaban-Delmas face à Bordeaux-Bègles. Pour ce match, Christophe, l'ASM pourrait enregistrer 3 retours dans son équipe.
Bons espoirs pour retrouver Fritz Lee, Georges Moala, il m'en manque un, Marcos Kremer, et sans oublier Christian Ojovan qui revient de suspension après 6 semaines en prison.
Alors l'UBB qui
est en prison
suspendu.
L'UBB éliminé 43-41 si je dis pas de bêtises.
42-41
un point face au Harlequins. Bordeaux qui était privé de Jalibert et Penaud notamment, qui pourraient faire leur retour face à Clermont. Ce sera
ça change un peu la donne quand
à
même.
Suivre Bordeaux qui est 6e avec 49 points, qui ne compte que 3 unités d'avance sur le 7e Pau. Il y a une obligation de résultat, on l'a dit, pour l'ASM. Il y a une obligation de résultat également pour les Bordeaux-Bègles.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est vraiment très curieuse, cette saison de l'UBB. Il y a quelques mois, ils étaient en tête du top 14 et ils roulaient sur tout le monde en Coupe d'Europe. Et puis tout le monde les voyait pratiquement favoris pour. J'ai lu ça. Favoris pour la Champions Cup et pour le top 14. Et puis ça s'est un peu tassé. Je pense que la coupure tournoi destination a pas forcément fait du bien à cette équipe, et c'est vrai qu'elle enchaîne des résultats assez curieux. Hélas, bah, cette désillusion, puisque c'en est une, perdre à domicile un quart de finale de Coupe d'Europe, c'est décevant, surtout de cette manière. D'un point, c'est terriblement frustrant. Donc on va voir la réaction possible de ces Girondins.
Et je dirais que la pression, elle est peut-être même plus forte sur l'UBB, parce que je crois savoir qu'il y a justement une pression des dirigeants sur le groupe, sur le sportif, pour finir dans les deux premiers et assurer une demi-finale à la maison au Matmut Atlantique à Bordeaux.
Et puis qu'on le veuille ou non, si Clermont perd à Bordeaux, on peut s'y attendre. Je crois qu'il n'y a pas péril en la demeure en soi. En revanche, une nouvelle défaite de Bordeaux à domicile ferait tâche.
C'est clair que c'est pas le Bordeaux du début de saison où qui avait aligné 7 ou 8 victoires consécutives là, et qui leur a permis de caracoler en tête dans tous les classements. Là, c'est vrai que depuis quelques mois, c'est une équipe qui est plutôt en dents de scie, donc avec un potentiel quand même effectif qui est sur le papier supérieur à celui de la SM aussi. Quand même
On l'avait vu contre Toulouse il y a quelques semaines, lors de la dernière journée, je crois, de top 14 avant la coupure européenne. Avec cette victoire, c'était au Matmut justement, victoire contre le Stade toulousain où Bordeaux avait livré une prestation de grande classe. Bah, merci messieurs, on approche de la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, on va évoquer les fameux top et flop. On va commencer avec toi, Fred.
Alors moi, c'est un flop, mais on l'a déjà en partie évoqué. C'est cette demi-finale de l'ASM du 4 mai. Alors, c'est pas la qualification qui est un flop, mais c'est ce règlement que je ne comprendrai jamais. Je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi en Coupe d'Europe on a des franchises sud-africaines. Faudra un jour qu'on m'explique.
L'aspect financier compte peut-être un petit peu.
sans doute, mais que des équipes qui gagnent le droit sur le terrain de pouvoir recevoir un match ne puissent pas le faire chez eux et donc jouent sur terrain neutre. Alors effectivement, ça va avantager l'ASM certainement sur cette rencontre. Je trouve que c'est ce tour de passe-passe réglementaire. Me dépasse complètement.
Je ferai juste une parenthèse sur la présence des Sud-Africains en Coupe d'Europe. C'est un choix qui a été fait par le World Rugby par rapport aux doléances des provinces sud-africaines qui s'épuisaient à faire des voyages transversaux en Australie, en Nouvelle-Zélande,
c'était pas la distance, c'était le décalage
horaire.
C'était
le décalage horaire
qui était épuisant pour les joueurs.
Ils étaient complètement décalqués par ça, donc ils ont estimé qu'il valait mieux faire un peu moins de kilomètres et dans le sens des mêmes
sud-nord
plus horaires
nord-sud
ou quasiment. C'était juste pour ça. C'était juste
une parenthèse de la présence. Avoir des Sud-Africains en Coupe d'Europe. Voilà.
Mais je suis assez d'accord sur le principe avec Fred en disant que bon, on peut plus appeler ça une Coupe d'Europe.
Non. Didier,
ce sera un top pour en ce qui me concerne, un top pour les Italiens de Trévis qui vont intégrer le dernier carré. C'est une bonne surprise finalement, et puis ça met un petit peu de sel à cette compétition avec une Bon, la présence d'un club italien, ce qui est assez rare, et suffisamment rare pour être souligné, donc ça met un peu plus de piment à cette compétition.
Une certaine progression quand même de la part de Trévise depuis...
Alors c'est juste une petite confirmation les concernant, parce qu'ils étaient déjà en demi-finale l'année dernière, mais ils avaient été battus 23-0 en demi par Toulon, qui gagnait l'épreuve... trois semaines après, mais par contre,
mais oui, s'installe, voilà,
s'installe à ce niveau-là, ouais.
Assez remarquable pour un club italien.
Et pour la crédibilité de la compétition, c'est bien qu'il y ait.
Puis ça confirme un peu l'Italie dans le tournoi, quoi. C'est, ça prouve que le rugby italien commence un peu à sortir la tête de l'eau après avoir été longtemps un peu les parents pauvres du rugby européen.
Et pour information, pour être complet, surtout Trévise qui affrontera Gloucester donc dans l'autre demi-finale.
Tout à fait.
Christophe.
Alors mon flop, ben c'est le Stade Rochelet. Alors bon, c'est un petit flop parce que bon, ils ont perdu face au grand Leinster, parce que je pense que le Leinster est vraiment une équipe qui est au sommet de son art et du rugby européen. Alors à égalité ou pas avec Toulouse, l'avenir nous le dira peut-être, si finale il y a. Mais la Rochelle, ils n'ont pas existé, quoi. Et puis on sent une équipe qui est un petit peu sur le... Alors pas sur le déclin, hein, mais c'est peut-être la fin d'un tout petit cycle. Après 2, 3, 4 saisons où ils ont vraiment été, ils ont tiré la quintessence de leur effectif et de leur potentiel. Et là, on sent qu'il y a des joueurs, c'est très très dur de durer au très très haut niveau pendant très très longtemps. Il y a peut-être des joueurs qui sont un petit peu moins bien et un peu en dessous du niveau qu'ils avaient il y a 2, 3 ans ou même l'année dernière. Et c'est ce qui fait que la Rochelle a un petit peu.
C'est plus dur cette année.
Au Leinster. Et puis bon, si on met en comparaison le Leinster et la Rochelle. Les Irlandais sont toujours favorisés parce qu'ils ne jouent pas ou pas du tout avec la même intensité leur championnat, alors que la Rochelle est obligée de se battre aussi en top 14.
Et c'est dur aussi pour eux.
Et c'est très dur.
Et la Rochelle
14.
Qui a pris du retard, effectivement, tout au départ, fait. Et qui doit cravacher maintenant pour intégrer les 6. Ben merci, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à Étienne qui nous a accompagnés pendant ce podcast. On se retrouve lundi prochain.
Même si c'est un footballeur, hein, mais bon, on lui pardonne.
Et on se retrouve donc lundi. D'ici là, belle semaine à tous. Salut!